essayez de regarder de l'autre côté du miroir.
Radio Campus.
Vous croyez que parce que vous informez les gens, vous pouvez changer leur vie?
Oui.
88.3.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans et vous écoutez Les Clitoriciennes, l'émission féministe qui traite de l'actu d'Orléans. Le 4 avril dernier, le FRAC a reçu la journaliste et podcasteuse Victoire Toyon, fondatrice du maintenant célèbre podcast Les Couilles sur la Table, qui traite des masculinités et plus récemment, Le Cœur sur la Table, qui se penche sur les relations à l'ère post-MeToo. Avec Mathilde Leitley, chercheuse en histoire de l'art et podcasteuse, elles ont discuté du podcast dans la recherche artistique en lien avec les enjeux féministes lors d'une table ronde intitulée « Créer des podcasts en féministe, sonorité intime et politique ». Les clitoriciennes étaient présentes et ont eu la chance de capter cette rencontre mais aussi de pouvoir interviewer Victoire Toyon ce jour-ci. La semaine dernière, vous avez pu écouter la passionnante table ronde et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir notre rencontre avec Victoire Toyon. L'occasion d'approfondir certains points, d'échanger sur le féminisme, l'éducation populaire, comment travailler en féministe et même parler misandrie. On vous laisse découvrir cela. Bonne écoute sur Radio Campus Orléans.
Bonjour Victoire, merci pour cette intervention ce soir. Et il y avait une petite question, tu as beaucoup parlé de féminisme et on voulait savoir si faire, constituer ces podcasts, ça suffit à ton militantisme féministe aujourd'hui?
Je pense pas que ce soit un acte militant. Ce que je fais, c'est que je fais mon travail, je suis payée pour ça. Donc je fais un acte de je fais mon métier de journaliste féministe. Voilà. Comme militante, j'aimerais en faire plus, mais non, mon activité c'est militante, c'est surtout faire des manifestations, de relayer des informations, de donner de l'argent. Mais j'aimerais évidemment avoir plus de temps, plus m'y consacrer, être plus engagée au niveau dans d'autres associations féministes. Ouais.
Tu parles de podcast comme un outil d'éducation populaire, ce qui me semble-t-il, l'EducPop a pour objectif, pour mission, pour viser la transformation sociale, voire la création d'un nouvel espace social justement. Peux-tu me clarifier, Victoire, comment tu articulerais ça, comment la création de podcasts semble être porteuse de changements collectifs? C'est-à-dire comment on passe de l'écoute individuelle d'un podcast, qu'on soit à la maison, en balade, en train de s'occuper de chèvres, etc. Comment on passe de ça, d'une écoute individuelle, à la mobilisation collective qui, me semble-t-il, est porteuse de changements profonds de la société?
En tout cas, ça favorise la prise de conscience, non? Ce qui est le point de départ. Il me semble, après d'une lutte collective, et pour lutter ensemble, il faut reconnaître qu'on a des points communs et qu'on est victime d'injustices communes, quoi. Et je pense que ouais, le podcast féministe, ça a aussi servi à ça, à mettre plus de monde dans les rues, à ce qu'il y ait plus en plus de féministes, de femmes qui se battent contre les violences, pour des meilleures conditions de vie, qu'il y ait cette conscience-là, quoi, qui soit forgée. Je pense que ça sert à ça. À quel moment on passe de l'individuel au collectif? Justement, quand il se produit ce truc un peu magique, où le casque sur les oreilles, ou toute seule, avec ces voix-là qui surgissent d'un peu partout, on se rend compte que, en fait, ce qu'on croyait être la seule à avoir vécu, on est plein à l'avoir vécu, qu'on est plein dans l'histoire à l'avoir vécu, que partout dans le monde, il y a des femmes qui se battent. C'est pour ça que c'est tellement émouvant d'entendre des voix. Dans ces documentaires et de comprendre enfin des choses qu'on sentait confusément mais qu'on avait besoin d'entendre exprimer par d'autres pour mieux les écouter, ouais.
Est-ce que, t'as parlé de ce nouveau podcast que vous produisez, 20 milieux sous la chair, et t'as dit que c'était possible de former les personnes correctement et de pas retraumatiser des victimes, etc. Et je voulais savoir si du coup est-ce que tu te considères comme une féministe optimiste, c'est-à-dire est-ce que tu comptes les petites victoires ou est-ce que tu as tendance à te dire « Ah, ça avance pas, on n'arrive pas, etc.
» C'est toujours un problème d'échelle, non? À quel niveau tu regardes? Si tu regardes ce qui s'est passé ces deux dernières années, tu te dis « Vraiment, on n'avance pas vite, 50 années, ah, ça commence à être plus intéressant. » Bon, donc ça dépend en fait, du recul historique que tu prends, de comment tu cadres, en fait, comme pour une photo. Qu'est-ce que ça raconte dans l'image? Du coup, si tu cadres de très loin ou de tout près. et sur former correctement les personnes et tout, bah oui, je pense que le monde peut changer. Je pense qu'il y a plein de choses qui nous paraissent aller de soi maintenant, qui vont nous paraître tout à fait anormales et inacceptables dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et moi, je me définirais comme féministe pragmatique aussi, dans le sens où je pose sans arrêt la question du que faire. Donc je dis par exemple dans Le Cœur sur la Table, bah, en fait on va mourir avant la fin du patriarcat, donc il s'agit aussi de vivre de bonne vie, hein, d'être heureuse, d'aimer, de jouir, d'essayer de faire ce qu'on peut dans le temps où on est vivante quand même, mais en ayant aussi la conscience qu'on s'inscrit dans une longue histoire de lutte, dans une longue tradition en fait, et qu'avant nous il y a eu des féministes, c'est pour ça que nous on existe, et puis nous ce qu'on est en train de faire ça va servir aux générations d'après. C'est pour ça que ça m'émeut aux larmes à chaque fois quand je vois des vieilles féministes venir en manif, voilà, dans des rencontres et tout, parce qu'en fait si nous on peut encore être là, avoir ces discours là et tout, et mener cette lutte là, c'est parce qu'il y en a d'autres qui l'ont fait avant. Et voilà, et sur le truc du pragmatisme là, moi je suis obsédée par que faire, c'est quoi les outils, qu'est-ce qu'on peut changer ici maintenant dans nos vies. Et donc dans les livres que je dirige dans la collection Sur la Table ou dans les documentaires que je fais, je suis vraiment attachée à ça quoi. C'est un côté très états-unien aussi quoi, du self-help, tu vois, de dire d'accord, mais alors qu'est-ce qu'on peut dire différemment, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, comment est-ce qu'on peut changer quelque chose tout de suite.
Tu l'as dit hein, au cours de cette soirée, les couilles sur la table, c'est attaquer à la question des masculinités, enfin, et pour mieux parler aussi des féministes. Il y a quand même quelque chose, et c'est peut-être quelque chose une question qu'on te pose souvent, mais déconstruire, montrer ces privilèges qui sont invisibilisés aujourd'hui, ces privilèges masculins qui sont invisibilisés partout, autant dans la sphère publique que dans la sphère intime, c'est encore à nous les meufs de faire ça?
Bah oui, non mais c'est sûr, bah qu'est-ce que tu veux, à un moment c'est fatigant, le temps qu'on y passe, l'énergie qu'on y passe et tout, mais bon, en même temps ça crée des liens, regardez, on en fait des émissions, on crée des choses et tout, donc c'est pas, en fait moi j'ai pas fait ça pour que les hommes changent. J'ai fait ça pour qu'on se sente plus libre, nous. Je veux toujours être du côté des personnes dominées, non? Donc c'est pour que nous, on cesse de croire que bah, ça va de soi, bah, qu'après tout, bah oui, bah, les hommes, ils sont comme ça et tout ça, pour qu'on les descende de leur piédestal, en fait. Voilà, c'était ça, moi, qui m'intéressait. C'est pour ça que je dis souvent que les couilles sur la table, je l'ai fait pour les femmes, je l'ai pas fait pour les mecs, en fait. C'est pour qu'on arrête d'être impressionnés, d'avoir plein de déférences, de trouver qu'ils sont vraiment formidables, qu'ils sont géniaux et tout.
Mais et les mecs, là-dedans, ils font des podcasts aussi pour se déconstruire ?
Non, mais c'est ça, le truc, c'est qu'ils peuvent pas... C'est pas ça, leur rôle à eux, en fait. Je crois pas. Je crois que, par contre, leur rôle, ce qu'on peut leur demander, c'est de nous soutenir, nous. Donc, de se la boucler et de se soutenir, nous. Voilà, c'est ce que fait mon mec, il fait ça. Voilà, moi, je respecte, je le remercie aussi à chaque fois dans les podcasts, les livres et tout, parce que j'aurais pas fait le même travail s'il m'avait pas vraiment soutenu concrètement et puis politiquement, tout ça. Enfin, voilà, donc je parle souvent de lui. Puis il y a d'autres alliés, quoi, qui le font. Et je pense que c'est plutôt ça, leur rôle, plutôt que de prendre la parole.
Donc, être féministe, à un moment donné, ça rend misandre ou pas ? À ton avis?
Ouais, carrément. Moi, je revendique hein, la misandrie sans problème. Ouais, je pense que si tu vas au bout de la logique, oui, bien sûr. Bien sûr, moi, je dis souvent ça, que vraiment, là, dans la vie que mène la plupart des hommes, il n'y a rien qui va, quoi. C'est vraiment pas très intéressant, tu vois. Et on peut en rire, je le dis sans cruauté ni haine. Juste, si on appelle, je pense qu'on appelle misandrie, je suis d'accord avec Pauline Armange là-dessus, quand elle dit qu'elle les déteste. Bah oui, je déteste une certaine masculinité, je déteste la façon dont se comportent les hommes, je déteste le patriarcat, oui, je suis misandre. Our love is like a watercolor, I'm bleeding through the page. Water rinse the bleach, I miss you clean, 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 clean.
Selon toi, de la révolution romantique que tu nous décris un peu dans Le Cœur sur la Table, est-ce que c'est pour bientôt en fait ce nouvel imaginaire social qu'on décrit et qu'on demande?
Bon, déjà cette expression de révolution romantique, c'est Costanza Spina qui est une autrice queer qui l'a inventée. Donc je tiens toujours à le redire. Et je sais pas si on vit ça. J'ai un peu mis cette expression maintenant de côté parce que je sais pas exactement ce qu'elle recouvre. Je trouvais que ça claquait, quoi, que c'était beau aussi, mais bon, Je sais pas très bien quoi dire de ça, à part que oui, les imaginaires sont en train de se transformer, que malgré tout, je pense que c'est pas pareil d'aimer, de relationner, d'être ami, de se poser toutes ces questions-là dans les années 2020 maintenant que dans les années 2000, quoi. Il y a quand même des choses qui ont grave bougé, donc enfin, c'est ce que je vois, qu'il y a quand même beaucoup de monde à se poser des questions pour avoir des relations riches, profondes, égalitaires. Quand même, j'ai l'impression que, même si je ne sais pas très bien comment on peut le mesurer, mais je crois que oui, c'est quelque chose qui existe, mais qui ne se fait pas en plusieurs années, qui se fait sur un, c'est un mouvement de très long cours.
Et le fait de faire exploser la binarité, ouais, aussi, est-ce que... Non, c'est pour toi, est-ce que c'est aussi un enjeu ? Est-ce que c'est quelque chose qui te semble aussi au cœur des couilles et du cœur sur la table ?
Bien sûr. Moi, je suis attachée aux pensées queer, aux pensées qui déconstruisent l'hétéropatriarcat, évidemment, de sortir de la binarité, mais pour un peu tout. Hein. C'est-à-dire de penser en termes de continuum, mais pas seulement en termes de spectre, en termes de continuum, et pas en termes de binaire. Ça, c'est sûr. Oui.
On a vu l'évolution du ou des féminismes, d'ailleurs poussé par la convergence des luttes, beaucoup, hein, la lutte anticoloniale, la lutte antiraciste, antivalidiste, etc. Petite question, à ton avis, très personnelle, hein, ouais. Quel sera le féminisme de demain ?
Je sais pas le féminisme de demain, mais je pense qu'il y a des enjeux qui vont émerger là de plus en plus. Je pense que, par exemple, bah, c'est évident qu'on n'en a pas fini avec les violences sexuelles, parce que déjà c'était un sujet qui émergeait dans les années 70, puis avant et tout, mais je pense, par exemple, là, il va falloir aller plus profondément dans les questions de violences sexuelles, notamment dans tout ce qui apparaît normal dans les relations. Je pense, par exemple, à tout ce qui se passe dans les relations sexuelles hétéro en particulier. Mais aussi ailleurs, dans ce qui s'appelle la coercition graduelle, c'est-à-dire le fait d'être d'accord et enthousiaste pour avoir des relations sexuelles, mais que d'un coup, au milieu de cette relation, il y ait des actes qui ne soient pas consentis, des actes notamment assez violents, notamment beaucoup de jeunes femmes rapportent qu'elles se font gifler, fesser, mordre, griffer sans qu'on leur ait demandé leur avis. Donc ça veut dire qu'il y a un vocabulaire, un script sexuel en fait qui est en train de se transformer et qui va falloir questionner. C'est sûr qu'on n'en a pas du tout fini avec la question des enfants, de comment on traite les enfants, de comment on traite les personnes qui sont pas valides, et puis de la question écologique en fait qu'il va falloir comprendre de plus en plus profondément et articuler avec toutes les autres luttes. Donc je dirais que on a encore bien du travail et qu'il y a des nouveaux sujets qui vont émerger et que je fais le vœu là que surtout si je suis encore vivante en 2040-50, je trouve pas que les jeunes féministes fassent n'importe quoi. Voilà.
Une question un peu plus générale, c'est, tu parlais tout à l'heure des contenus féminins et du fait que les hommes consomment des hommes, que les femmes consomment des hommes et des femmes. Est-ce que tu penses que c'est important pour les femmes de choisir consciemment de consommer des produits culturels produits, écrits, filmés, enfin, travaillés par des femmes, en fait ?
C'est juste que notre temps est limité. On n'a pas vraiment le temps de tout lire, donc il faut faire des choix. C'est pas qu'on les élimine, c'est qu'on a préféré autre chose. C'est tout. Donc ouais, Alice Coffin a écrit ça très très bien dans Le Génie Lesbien. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc oui, moi j'écoute des femmes, je lis les femmes. Oui, je regarde des films de femmes et j'écoute. Bien oui, c'est sûr, avant tout quoi. Bien sûr.
Mais malgré tout, dans ton taf au quotidien, est-ce que t'as affaire quand même à ces boys bands
Donc j'avais un patron qui s'appelle Joël Ronez. Et un autre patron qui s'appelle David Carzon. Donc c'était vraiment les deux mecs avec qui je devais travailler, en patron quoi. Après j'avais un collègue, donc j'ai Thomas Rozek et Quentin Bresson, franchement ça allait, ça va. Alors bosser avec des mecs, bon là c'est vrai qu'il y a Paradiso qui a racheté Binge Audio, donc Paradiso qui est détenu par trois hommes, hein, qui ne se sont pas intéressés aussi profondément aux questions féministes, ça c'est sûr. Ça me saute au visage en fait. Hein, j'avais oublié quoi que c'était les mecs normaux en fait. Donc ils prennent de la place, ils parlent fort, ils parlent pour rien dire, ils chouinent. Non c'est pas vrai, mais bon. Bah oui c'est sûr, non mais ça voilà. Alors à part dire ça, que dire? Oui, après moi, dans mon équipe rapprochée, je travaille avec donc Naomi Titi, maintenant Lucille Le Boutet, d'autres stagiaires qui sont des femmes principalement. Donc Voilà, le genre, assez vite, le genre n'est pas vraiment une question, quoi, là où je travaille. Par contre, par exemple, ça me pose problème qu'on soit quasiment tous blancs. Et puis, voilà, qu'il y a quand même assez peu de diversité, même de classe sociale. Hein, on se rend compte qu'on est de plus en plus à avoir fait Sciences Po et tout. Enfin, franchement, bon, je sais pas, voilà, c'est quand même assez uniforme tout ça. Mais comme dans l'immense majorité des rédactions françaises, hein, des médias, franchement, voilà, c'est assez homogène. Non, mais c'est toujours le truc, c'est un exercice quotidien de ne pas être impressionné par des mecs, par leur aplomb, par... Vraiment, quand on les écoute vraiment, beaucoup, ils parlent pour rien dire. C'est pas très profond. Ils ont pas des très bonnes idées, mais ils ont hyper confiance en eux, quoi. Donc, voilà, c'est assez impressionnant. Moi, j'ai aussi pas mal changé mon rapport à l'argent sur le fait d'en demander, de demander à être rémunéré à ma juste valeur, d'aimer négocier, aussi par rapport au conflit. Donc, moi, j'ai pas peur du conflit, de m'embrouiller avec des gens et tout. Ça me fait pas du tout peur. Voilà. Donc, mais bon, encore une fois, je suis à une place qui est assez privilégiée, mais sur le fait de dealer au jour le jour avec des dudes. Mais peut-être qu'après, moi, je suis pas avec des méchants, quoi. Je suis avec des dudes classiques. Normal dudes. Voilà.
Ouais. Bah, merci beaucoup, Victoire, pour cette rencontre. Tu nous as empuissancés. Et ça, c'est important.
Avez-vous vu un homme à poil sortir soudain de la salle de bain, dégoulinant par tous les poils et la moustache pleine de chagrin? Avez-vous vu un homme bien laid en train de manger des spaghettis, fourchette au poing, l'air abruti, la sauce tomate sur son gilet? Quand ils sont beaux, ils sont idiots. Quand ils sont vieux, ils sont affreux. Quand ils sont grands, ils sont feignants. Quand ils sont petits, ils sont méchants. Avez-vous vu un homme trop gros extraire ses jambes de son dodo, s'émincer le ventre, se gratter les tifs et regarder ses pieds l'air pensif? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Faites plutôt du cinéma. Restez plus seule chez votre papa. Devenez serveuse chez un bougnat. Élevez des singes, élevez des chats. Levez la patte à l'opéra. Vendez des boîtes de chocolat. Prenez le voile, vous le prenez pas. Dansez à poil pour les gagas. Soyez radeuse, avenue du bois. Mais ne vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Un homme gêné rentré trop tard pour le dîner, du rouge à lèvres sur son col, du flageolant sur la guibole. Avez-vous vu au cabaret un monsieur qui n'est plus très frais se frotter avec insistance sur une petite fleur d'innocence? Quand ils sont bêtes, ils nous embêtent. Quand ils sont forts, ils font du sport. Quand ils sont riches, ils gardent l'artiche. Quand ils sont durs, ils nous torturent. Avez-vous vu à votre bras ce maigrichon à face de rat, friser ses trois poils de moustache et se redresser l'air bravache? Vous mariez pas, les filles, ne vous mariez pas. Mettez vos robes de gala, allez danser à l'Olympia. Changez d'amant quatre fois par mois. Prenez la braise et gardez-la. Cachez la fraîche sous vos matelas. À 50 ans, ça servira à vous payer de bons petits gars. Rien dans la tête, tout dans les bras. À la belle vie que ça sera. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas. Si vous ne vous mariez pas, les filles, si vous ne vous mariez pas.
Thank you. but you know you be my number one.
Thank you. mind a bit. They take each other's hands and walk into the bedroom.
Thank you. shift, 6 days a week, making less money than I'd like to admit. But the big boys own it all. Sit, I can sleep by myself and I'm